Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce samedi pour notre nouvelle exploration du futur, notre nouveau grand rendez-vous face à l'avenir. Et pour commencer, aujourd'hui, quatre grandes nouvelles. Tout d'abord, le gouvernement français vient de décider que la future station orbitale qui sera construite, station européenne, sera à dominante française, ce qui veut dire que vous aurez, vous, Français, en priorité, la possibilité de visiter l'espace au début des années 2000.
Et toujours pour la France, un projet grandiose dans l'espace. En effet, pour célébrer le centenaire de la Tour Eiffel, sera lancé en 1989, c'est-à-dire dans très peu de temps, un collier géant là-haut dans l'espace. Il mesurera 24 km de circonférence et il sera entièrement d'ailleurs construit en matériaux composites dont nous reparlerons tout à l'heure. En fait, il orbitera à 800 km d'altitude, une orbite basse, et naturellement sera réfléchissant, réfléchira les rayons du Soleil et sera visible de toute la Terre. Tout à fait étonnant.
Et à présent, un record. Un record du monde même. Le champ magnétique le plus élevé du monde vient d'être réalisé par une équipe franco-allemande sous la direction du CNRS à Grenoble. 600 000 fois le champ magnétique terrestre. C'est une valeur absolument fantastique qui aura des applications tout à fait inédites dans des domaines très variés, en particulier dans la lutte contre les virus.
Et enfin, toujours dans l'espace, une nouvelle importante puisque l'Angleterre a décidé de relancer la course aux avions stratosphériques. La société anglaise British Aerospace a fait en sorte que l'on se livre dès maintenant à des expériences sur les moteurs stratosphériques qui vont équiper les futurs avions Hotol capables, vous le savez, nous l'avons déjà dit, de relier New York à Paris en un peu moins d'une demi-heure.
Alors les quatre domaines dont nous venons de parler impliquent tous, sans exception, la construction et la présence de matériaux composites. Ce sont ces matériaux composites, plus résistants, plus légers, plus solides, que nous aurons l'occasion de vous présenter en détail tout à l'heure dans notre dossier. Nous recevrons également tout à l'heure, face au futur, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de la Recherche, ancien ministre de l'Éducation nationale. Il répondra à nos questions, aux questions que vous pouvez vous poser sur les grandes mutations face au début des années 2000. Et quoi qu'il en soit, et comme nous sommes maintenant nous aussi invités, et invités par qui? Eh bien par la quatrième dimension.
Oui, et la quatrième dimension, aujourd'hui, nous ne nous en rendons pas en voiture ou à pied. Non, il nous faudra prendre un avion pour y aller. Un avion qui va, en fait, nous confronter à quelque chose de tout à fait étonnant, en tout cas pour le pilote qui se trouve à bord, puisqu'il a décollé d'un terrain, d'une piste, et puis lorsqu'il va se reposer, toujours au même endroit, du moins il le pense, eh bien, il va se trouver confronté à un endroit tout à fait méconnaissable. Il ne reconnaîtra plus rien autour de lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il se sera peut-être posé ailleurs, c'est-à-dire, vous allez le voir dans un instant, dans la quatrième dimension.
Au-delà des dimensions classiques où l'homme projette ses pas, il en est une où s'échappent ses pensées les plus folles. C'est une dimension aussi vaste que l'espace, aussi démesurée que le temps. Un reflet changeant entre l'ombre et la lumière. Un champ d'hypothèses entre la science et la superstition. Un terrain glissant entre l'abîme de nos frayeurs et la cime de nos connaissances. Sublimant l'imagination, faisant éclater le rationnel, nous l'appellerons simplement la quatrième dimension.
Depuis longtemps, nous avons été habitués à cette idée que pour dialoguer avec un ordinateur, il nous fallait nécessairement passer par l'intermédiaire d'un clavier. Or, cette vérité est de moins en moins vraie au fur et à mesure que se développent des techniques nouvelles qui nous permettent d'avoir un contact de plus en plus direct avec l'ordinateur.
Le développement des jeux vidéo a d'abord été l'occasion d'instaurer une sorte de communication physique avec l'ordinateur, avec des volants, des manches à balai et autres joysticks prolongeant les mains, les bras, le corps. La tablette tactile, essentiellement utilisée pour l'instant à des fins graphiques, met en jeu une autre technologie. Toute pression qui lui est appliquée est prise en compte par l'ordinateur. Celui-ci interprète la position d'un curseur sur un menu permettant le choix des couleurs, des traits ou des trames. Et c'est en somme le simple toucher qui devient ici perceptible à l'ordinateur. Allons plus loin. Voici l'écran tactile. Une simple pression directement sur l'écran et le système réagit. Lecture, avancée rapide, etc. Nous voici bien loin du bon vieux clavier. Avec la souris, un dispositif qui, déplacé sur une table, commande un curseur sur l'écran, le dialogue entre l'homme et l'ordinateur est devenu un jeu d'enfant. Entrons-nous donc, comme ces personnages de dessins animés, dans une ère nouvelle, où il ne serait plus nécessaire de connaître les langages informatiques pour commander un ordinateur. La révolution serait alors que l'homme n'apprendrait plus la langue de l'ordinateur, mais que celui-ci reproduirait le langage de l'homme.
Look, we rescued Kuma. Why do we have to chase an oversized eyebrow?
Wheels, I'm surprised at you.
La régie Renault a préfiguré dans ce film ce que serait un ordinateur de bord pilotant et gérant une automobile des années à venir et commandé par la voix.
Votre destination ?
Cochevel.
Itinéraire choisi.
Numéro 3. Bonsoir, c'est Isa.
Alors, le dialogue vocal avec l'ordinateur est-il vraiment pour demain ?
Le problème aujourd'hui est que ce genre d'application nécessite des capacités de mémoire très importantes. De plus, la reconnaissance vocale est une technique délicate. Mais je crois qu'il faudra encore entre 5 et 10 ans avant que nous ayons la technologie, avant qu'elle se développe suffisamment, pour pouvoir reconnaître n'importe quelle voix et être capable de traduire cela d'abord en langage d'ordinateur et ensuite le retraduire en langage usuel.
Pensez-vous que cela pourrait changer nos relations avec l'ordinateur ?
Bien sûr, ce sera plus facile. Ce seront des rapports beaucoup plus humains.
You stupid little meddling piece of junk. What do you think you... What kind of...
I'm talking to a machine. What's happening to me? I'm going nuts. This has gone too far. I'm having you checked tomorrow. And whatever's doing this to you is going to be removed. I'm doing it again. Believe this. And whatever you do, keep your mouth shut.
Imaginons à présent un système dans lequel la symbiose entre l'homme et l'ordinateur serait si poussée et si sophistiquée qu'aucun clavier, aucune manipulation, aucune parole ne serait plus nécessaire. Il suffirait d'une pensée ou d'un simple regard pour communiquer avec la machine. Non, ce n'est pas de la science-fiction, ou ce n'est plus de la science-fiction, puisqu'ici, à San Francisco, une équipe de chercheurs, dirigée par Eric Sutter, vient de mettre au point un dispositif permettant un dialogue direct entre un ordinateur et notre cerveau. Et c'est ce dispositif que je vous propose à présent d'expérimenter.
Institut Smith-Kettlewell pour les sciences visuelles. C'est ici que Eric Sutter, un chercheur américain d'origine suisse-allemande, a mis au point le système le plus avancé au monde en matière de communication avec un ordinateur. Le principe du dispositif est le suivant. Le sujet de l'expérience est d'abord connecté à l'ordinateur par le biais d'électrodes qui captent les ondes cérébrales correspondantes au centre de la vision.
Il faut vous mettre en position devant l'écran. Et on va relier les électrodes à l'amplificateur. Et maintenant, vous verrez les réponses de votre cerveau sur l'écran.
Et voici à présent l'élément essentiel du dispositif. Un écran vidéo est décomposé en 64 cases scintillantes à des fréquences toutes différentes. Chaque case de l'écran porte un mot ou pourrait correspondre à une fonction comme un clavier ou un tableau de bord. À partir de maintenant, la case fixée des yeux par le sujet va être identifiée par le cerveau grâce à son scintillement spécifique repris en compte par les ondes cérébrales. Voici ce scintillement au ralenti. Pour le sujet, l'apparence de l'écran est normale. Mais avec moi-même comme sujet, l'expérience n'est malheureusement probante qu'à 50%.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas été capables de faire fonctionner cette expérience avec tout le monde. Certains sujets semblent plus doués que d'autres, et notre tâche consiste à parvenir à réussir l'expérience avec tout le monde.
Cette jeune femme obtiendra de meilleurs résultats. En effet, l'épaisseur de la boîte crânienne est moindre chez les femmes. Les ondes cérébrales se trouveront donc moins perturbées par des signaux parasites. Et cette fois, le test sera pleinement concluant. Mais les conditions de cette expérience sont-elles vraiment scientifiques? Une connivence ne peut-elle s'instituer entre le sujet et l'expérimentateur, faussant les résultats? Pour éviter cette incertitude, nous avons modifié le protocole expérimental. C'est nous qui désignons à présent au sujet les cases qu'il doit regarder. Dans le domaine de l'assistance aux handicapés en particulier, les applications de cette découverte révolutionnaire sont multiples. Mais les militaires ont déjà leur idée sur ce sujet, et nous voici par là même plongés dans l'univers du film Firefox. Un commando américain a volé à l'armée rouge un appareil de combat, commandé précisément par un système semblable à celui dont nous avons parlé. Mais un problème va bientôt survenir, car le système de mise à feu, captant lui directement les ondes cérébrales de la pensée, a été programmé en russe.
Il faut que je pense en russe. Pense en russe. Papouskaïti Eftali.
Instruction book.
No, thank you, it was.
But I mean you don't have a brain.
What is an brain? What is an brain?
Les travaux d'Eric Sutter sont attentivement suivis par le monde scientifique et les spécialistes de l'informatique. Leurs répercussions peuvent être considérables. En effet, on a souvent dit que l'homme se distinguait de l'animal par le langage, lui-même à la fois source et signe de la pensée. Nous débouchons alors ici sur des horizons encore insoupçonnés, car la conquête des instruments de la communication par l'ordinateur pourrait être pour lui la première étape d'un nouvel avènement, celui de l'intelligence artificielle.
Euratom
Et oui, c'est tout de même prodigieux. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle forme intelligente. Les conséquences sur le plan philosophique, métaphysique et bien sûr sociologique en sont immenses. Nous y reviendrons bien sûr. Alors Igor, la semaine prochaine, un nouveau rendez-vous dans Temps X.
Un nouveau rendez-vous qui nous...